Nombre 14, nous lisons ensemble. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ?» Et ils se dirent l'un à l'autre, nommant un chef, et retournant en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël, et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront, eux, du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance, et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant l'Éternel est lent à la colère, riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre, tous ceux qui ont vu ma gloire, et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Voilà, nous étudions la vie de Moïse et ce passage nous décrit un trait prononcé. Chez Moïse, il était un homme de prière, les prières de Moïse. Mais si vous regardez bien, les prières de Moïse ont un aspect spécifique. Ce n'est pas juste béni ce repas et les mains qui l'ont préparé. Les prières de Moïse, ce n'est même pas vraiment comme Daniel. Daniel aussi, c'était un homme de prière. Quand on pense à Daniel, les prières de Daniel, on pense à Daniel 3 fois par jour dans sa chambre, seul avec Dieu. Même fausse au lion, il veut être avec son Dieu, il veut prier. La particularité des prières de Moïse, c'est que quand il prie, dans les livres Exode, Nombre, Deutéronome, quand il prie, il est toujours en train d'intercéder pour le peuple dans une situation dramatique. Moïse, les prières de Moïse, c'est plaider pour le peuple, c'est prendre leur défense. Et on pourrait dire, c'est quand on lit la vie de Moïse, le grand rôle de Moïse finalement, c'était ce rôle d'intercesseur, de médiateur, d'avocat. Korah a chanté Godan Moïse, et c'est vrai, il est descendu en Égypte, il a intercédé pour le peuple face à Pharaon. Mais ça, c'était une chose. C'était toute une autre affaire d'intercéder pour le peuple devant Dieu. Il faudrait écrire un cantique « Go up, Moïse » pour qu'il... c'était là la vraie mission, le vrai travail, le vrai défi dans la vie de Moïse. Mais il l'a fait, il a plaidé la cause du peuple. Et en fait, tout ce chapitre décrit une procédure judiciaire. Ça commence en verset 2, d'ailleurs, avec des murmures. En fait, l'assemblée murmure contre Moïse et Aaron. Et murmurer contre quelqu'un, ce n'est pas juste rechigner, bouder. C'est l'idée de porter plainte, d'accuser. Il porte plainte contre Moïse, il l'accuse. Et quelque part dans ce chapitre, le peuple lance un procès contre Moïse. Ils le mettent au banc des accusés. Et ils délibèrent, ils arrivent rapidement à leur jugement. Verset 4, il faut le limoger, nommant un autre chef. Donc on va limoger Moïse. Et puis, ils vont plus loin que ça, verset 10, il faut le lapider. Donc, verdict, limoger, ensuite lapider. Et juste à ce moment-là, verset 10, le vrai juge débarque. C'est-à-dire ce procès passe en cour de cassation, tribunal de grande instance. Et là, c'est le vrai juge qui débarque. Verset 10, la gloire de l'Éternel apparut devant tous les enfants d'Israël. Maintenant, c'est Dieu qui est le juge et procureur. Et on va assister à cette scène. On va la vivre ensemble et on va découvrir une bonne partie du message de la Bible grâce à ça. Donc ce matin, nous allons voir tout d'abord l'accusation du procureur, ensuite la défense de l'avocat, et enfin le verdict du juge, la réponse de Dieu. Tout d'abord l'accusation, on la trouve en verset 11, Dieu trouve ce peuple coupable, coupable d'un crime. Et pour comprendre cette accusation, peut-être il faut rappeler les événements du chapitre précédent. C'est le peuple avec Moïse. Ils ont voyagé depuis le mont Sinaï, ils ont voyagé et jusqu'à la frontière sud du pays promis, donc ils se trouvent là. Et 12 hommes sont allés, 12 hommes, un homme de chaque tribu, 12 hommes sont allés explorer, espionner le pays. Et ils reviennent, ils sont tous d'accord, ils reviennent, c'est un pays merveilleux, c'est un pays excellent. La preuve, c'est qu'ils avaient trouvé une grappe de raisin. Il fallait deux hommes pour porter cette grappe de raisin. Alors après plusieurs mois au désert, de tels raisins, ça donne vraiment envie. C'est bon ça, c'est excellent. Mais, il y a toujours un mais, on va nous bouffer tout cru. Verset 32, c'est ce qu'ils disent, hein, ils vont nous dévorer. Et 10 des 12 espions, c'est-à-dire pas Josué et Caleb, 10 des 12 entraînent tout le peuple dans une panique et dans une faute grave aux yeux du procureur, aux yeux du juge, une faute grave. Quelle est cette faute grave aux yeux de Dieu? Il le dit au verset 11 quand il lance l'accusation avec la peine requise, verset 11. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui, je le frapperai par la peste, je le détruirai. Quelle est l'accusation? Quelle est la faute dont Dieu accuse le peuple? C'est l'incrédulité. Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Ce peuple est incrédule. Alors, l'incrédulité, on le trouve partout un peu. On dit, mais qu'est-ce qui est si grave? On est libre de penser ce qu'on veut. Qu'est-ce qui est si grave? Pourquoi Dieu? C'est comme la goutte qui fait déborder la vase. Il dit, ça suffit, c'est grave ce qu'ils font. Pourquoi l'incrédulité est si grave aux yeux de Dieu? Eh bien, on le voit bien ici, cette histoire l'illustre bien, je trouve, l'incrédulité. Le problème avec l'incrédulité, c'est qu'au fond, c'est un mépris de Dieu. Les pensées sont parallèles, verset 1. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Leur incrédulité, c'est-à-dire leur refus de monter dans un pays promis, cette incrédulité, c'était au fond traiter Dieu de petit Dieu, bien plus petit que les géants qui se trouvaient dans le pays promis. Leur incrédulité, par leur incrédulité, ils accusaient au fond Dieu de mensonge, d'infidélité, d'impuissance, d'incapacité. Et c'est pour ça que c'est grave. On peut dire, oui, bon, l'incrédulité, les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Mais même dans notre pays, liberté, tout ça, la liberté d'expression s'arrête à la diffamation de caractère de l'autre. Il y a des lois sur la diffamation de caractère. Et plus une personne est élevée en dignité et en statut, plus une accusation contre sa personne porte du poids. Et si c'est vrai, eh bien, oui, il faut le sonder, il faut le traiter. Si c'est faux, attention, ça peut être diffamation de caractère. Alors, vous savez, les politiciens, les célébrités, constamment, ils portent plainte pour diffamation de caractère parce que les journalistes et les médias s'acharnent, ils disent, contre eux. Alors que souvent, il y a un fond de vrai dans tout ça et on a déchiné, le caractère est pourri. Mais qu'en est-il de Dieu? Est-ce qu'il, jusqu'à quand peut-il subir des diffamations de caractère, ce mépris contre sa personne? Et Dieu est patient, mais il dit dans ce passage, ça fait 10 fois que le peuple me traite ainsi. Et pourtant, chaque fois, et là, vous revoyez un peu les histoires qu'on a vues, mais il y avait la mer Rouge, il y avait l'eau qui sort du rocher, il y avait la manne dans le désert, il y avait la viande avec les cailles dans le désert, il y avait les victoires dans la bataille. C'est-à-dire, chaque fois, Dieu leur a prouvé qu'il était bon, qu'il était fidèle, qu'il était puissant, qu'il était capable, qu'il pouvait gérer des armées méchantes, qu'il pouvait gérer des géants comme dans ce pays, et qu'il pouvait gérer des manques d'eau, il pouvait gérer Pharaon. Dieu a toujours montré qu'il pouvait faire ça. Mais leur conclusion, c'est par cette incrédulité, leur conclusion, c'est non, finalement Dieu, il est un mauvais gestionnaire. C'est un mauvais chef. Nous voulons un autre chef. Nommons un autre chef. Ils ne veulent plus Moïse comme chef, mais au fond, ils ne veulent plus Dieu comme chef. C'est comme Victor Hugo disait. Il disait, l'athéisme dresse contre Dieu un procès verbal de carence. L'athéisme dresse contre Dieu un procès verbal de carence. C'est-à-dire, le Dieu, votre Dieu, c'est un Dieu de carence. Carence de fidélité, carence de bonté, carence de puissance, carence de sagesse, carence de présence. L'athéisme dresse contre Dieu un procès verbal de carence. Et au fond, c'est ça l'incrédulité. C'est un peu le problème de l'incrédulité. Je me souviens, on faisait un plein air. Et on chantait tout ça. Et quelqu'un dans la foule a crié, « Dieu est un menteur !» Et quelque part, c'était l'expression honnête de l'incrédulité. C'est l'expression honnête de l'incrédulité. Dieu est un menteur. Si on ne veut pas croire en Dieu, c'est en quelque sorte lui faire menteur. Et c'est un peu le problème. C'est pour ça que c'est quand même grave. Parce que Dieu, en tant que procureur, en tant que juge, il a l'obligation de défendre l'honneur et la vérité où qu'elle soit, où qu'elle se trouve. Mais y compris la vérité et l'honneur de sa propre personne. C'est bon de sa part de défendre ce qui est vrai et noble et juste et pur. Et il est lui-même vrai, noble, juste et pur. Et quand on le méprise ainsi, il doit défendre son caractère. C'est ce qu'il dit au verset 21. « Je suis vivant, je suis glorieux. » Par cette incrédulité, on est en train de me dire que je ne suis pas vivant et que je ne suis pas glorieux. C'est un problème, je demande justice. Ça, c'est l'accusation du procureur. Maintenant, voyons la défense. À partir du verset 13, chose incroyable, Moïse, celui qu'ils ont voulu limoger et lapider, Moïse prend la défense du peuple. Il devient leur avocat et il intercède pour eux. Tout ce chapitre montre Moïse dans son rôle d'intercession et il va défendre le peuple et il présente son cas dans une prière à Dieu. C'est ça, les prières de Moïse. On trouve versets 13 à 19. Alors, quelle va être l'argumentation de l'avocat? Comment il va se prendre? Mon client est innocent. Enfin, si vraiment tu voyais le fond de son cœur, il est innocent. Non, c'est pas comme ça qu'il procède. Vice de forme, pas assez de témoins, pas eu la lettre recommandée à temps, vice de forme, on peut... Non, c'est pas comme ça qu'il procède. Circonstances atténuantes. Le peuple était fatigué ce jour-là, ils avaient beaucoup marché. Il faut les comprendre après tout non plus. Il n'a pas plaidé à une raison de l'arrière-plan, le passé. C'est quand ils étaient petits, ils avaient peur des géants. Alors, ça revient psychologiquement. Voilà. Cet avocat, il passe pas par ces stratégies-là qui n'auraient pas marché devant le juge parfait. Mais... C'est très très fort la manière qu'il procède. Moïse dit non, s'il vous plaît, votre honneur, ne détruis pas, il ne faut pas les détruire. Parce que, et après, il parle à Dieu, il dit il en va de ton honneur, il en va de ta réputation. C'est-à-dire, toi qui ne veux pas diffamer ton caractère, voilà. Il en va de ton caractère, de ta réputation. Vous voyez bien, il intercède avec l'argument suivant. Si tu détruis ce peuple, les gens vont penser que tu es incapable de les sauver. Les gens vont penser que tu ne vas pas au bout de tes projets. Les Égyptiens, ils vont dire aux habitants de ce pays, donc les Égyptiens et les Cananéens vont penser que toi, l'Éternel, tu n'es pas si grand que ça. Les Égyptiens, les Cananéens, ils risquent de se faire une mauvaise idée de toi. Ils vont penser que tu es moins glorieux que tu l'es vraiment. Alors Moïse dit, écoute, c'est parfait. Tu as l'occasion maintenant de montrer vraiment ta grandeur. Et c'est comme toi-même, tu as dit que ta grandeur, ta gloire se voit dans ta miséricorde, dans ta grâce. Alors c'est l'occasion de montrer à quel point ta miséricorde est grande. Vous voyez ces versets 17. Et maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère, riche en bonté. Verset 19, pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde. C'est ça les prières de Moïse, c'est ça la défense de Moïse. Le peuple n'aurait pas pu espérer un meilleur avocat, parce que là c'est un argument qui touche au cœur de Dieu. Alors non pas que Dieu était surpris par cette ligne de défense, nous croyons que c'est lui-même qui l'a apprise en quelque sorte à Moïse, c'est lui qui l'a inspiré, c'est la grandeur de Moïse, la beauté de sa vie se voit dans ce qu'il a compris de Dieu par les moments qu'il a passés avec lui sur la montagne et autres. Et cet attachement au caractère de Dieu, à la grandeur de Dieu, il a compris le raisonnement de Dieu, il a compris la pensée de Dieu, il a compris ce qui passionne de Dieu, et c'est ça qu'il va adopter comme ligne de défense pour le peuple. Et ce n'est pas la première fois que Moïse a prié comme ça. C'est ça qu'il faut aussi. Nous avons quasiment le même scénario en Exode chapitre 32, déjà avec la veau d'or. On n'en a pas vraiment parlé les dimanches matins, mais même cas, le peuple idolâtre se détourne de Dieu. Dieu juste veut les détruire et Moïse prie une même prière. Seigneur, ne détruis pas à cause de ton nom, de ta gloire. Et les deux fois, d'ailleurs, Dieu a proposé à Moïse, bon, je détruis tout ce peuple un seul coup et on recommence avec toi, je ferai de toi une grande nation. Moïse est prêt à renoncer à un royaume, renoncer à une nation, renoncer à la grandeur, tellement il est attaché à la gloire de Dieu, la gloire de sa grâce et de sa grandeur. Et s'il y a un trait dans la vie de Moïse qui rend cet homme si grand, si fort, le Moïse dont on parle, c'est certainement cet attachement à Dieu. Ce qu'il a compris de Dieu, il est entré dans le raisonnement même de Dieu pour plaider la cause du peuple. Et la force de ces prières-là sont imbattables, imbattables. Voyons maintenant le verdict du juge. Verset 20. Après avoir présenté la défense, l'Éternel dit, « D'accord, je pardonne comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel doit remplir la terre. » Et après, dans les versets suivants, le verdict peut nous perplexer parce que Dieu dit, « Je pardonne, très bien, je pardonne comme tu demandes. » Après, il dit, je vais quand même punir. Les 10 hommes qui sont entrés dans le pays promis, ils meurent sur place. Et puis, la génération, toute cette génération, est condamnée à 40 ans d'errance dans le désert où ils vont mourir. Et ça va être la génération suivante qui vont pouvoir entrer. Et on se dit, d'accord, où est le pardon et où est la punition? Comment il peut dire qu'il pardonne et il punit? Mais quelque part, il a pardonné. Le pardon se voit dans le fait qu'il n'a pas ce qu'il demandait comme peine en verset 11, c'est de frapper tout le peuple d'un seul coup et de recommencer avec Moïse seul. Et ça, il n'a pas fait. Le peuple a eu la vie sauve. Ils ont été pardonnés. Et ils vont pouvoir vivre encore et vivre même de belles choses avec Dieu, même si c'est dans le désert. Et ce qui me paraissait extraordinaire, c'est si vous descendez un peu à chapitre 15, donc l'épisode 14 est fini, chapitre 15, premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, quand vous serez entrés dans le pays promis que je vous donne pour y établir des demeures, voilà ce que vous devez faire. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne pour y établir vos demeures, c'est-à-dire là. Oh. Le chapitre suivant, Dieu voit déjà que vous serez entré dans le pays promis. On n'en parle plus, c'est-à-dire, visiblement pour Dieu, la page est tournée, c'est ça le pardon, il oublie. Vous imaginez, le chapitre suivant, Dieu, je me dis, si j'étais Dieu, je pourrais rappeler ça, ou même au moment de la bataille de Jéricho, les lâcher, les abandonner en disant, ah, vous vous souvenez de là-bas? Ah, débrouillez-vous maintenant sans moi. Vous qui ne vouliez pas moi comme chef, allez-y. Non, Dieu... L'instant d'après, c'est oublié, cet épisode, c'est oublié quand vous serez entré dans le pays que je vous donne. C'est bon, donc ça, on voit la grandeur du pardon, et c'est pardonné, c'est oublié, on tourne la page. Mais, Dieu est juste, il est juge, et la justice, c'est fait. D'ailleurs, il y a même une justice parfaite encore qui se voit dans la sentence que prononce le juge. Parce qu'ils avaient dit dans le verset 2, oh là là, Dieu il nous a amenés ici, ils ont dit verset 2, que ne sommes-nous morts dans le désert? On aurait préféré mourir dans le désert que d'être amenés devant ce pays promis avec ces géants. Que ne sommes-nous morts dans le désert? Et Dieu dit, d'accord, bon, c'est ce que vous avez voulu, vous l'aurez. Est-ce que Dieu, les gens dans cette vie qui disent on ne veut pas de Dieu, Dieu dit, d'accord, vous l'aurez pour l'éternité. Vous n'avez pas voulu entrer dans le pays promis, d'accord, Vous n'entriez pas. C'est ça la justice parfaite de Dieu. Et puis il y a même une autre aspect de cette justice. Ils ont dit, si on va là-bas, les géants, là, les méchants, ils vont dévorer nos enfants. Verset 3. Nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Et ils s'inquiétaient tellement pour les enfants, n'est-ce pas? Nos enfants, ils vont être... Eh bien, dans l'ironie de Dieu, ou dans la justice de Dieu, ces petits-enfants, c'est eux qui ont mené l'épée contre ces géants et qui ont été victorieux. À la génération de Josué, ces petits-enfants ont vécu des choses extraordinaires, merveilleuses. Ils n'ont pas été une proie, au contraire, ils étaient vainqueurs. Donc, Dieu accomplit parfaitement une justice. Et ce qu'on voit ici dans ce chapitre 14, c'est que Dieu il réussit à pardonner et punir. Il réussit à préserver son caractère. grâce à Moïse, c'est les prières de Moïse, cette réflexion qui a préservé le peuple. Moïse était un excellent avocat. Mais encore, et c'est ce dont nous avons tous besoin, combien de fois nous avons été incrédules. Et rappelons-nous, notre incrédulité, au fond, c'est ce qui est terrible, mais notre incrédulité, au fond, c'est de traiter Dieu d'incapable, de nul, de menteur. Quand nous ne croyons pas sa parole, quand nous ne vivons pas selon les promesses qu'il nous donne, on est en train de lui dire, mais t'es faible, t'es incapable, telle est notre faute, notre crime. Nous avons besoin d'un avocat. Alors Moïse et Aaron, ils ont défendu le peuple. On les voit, ils se prosternent devant l'Éternel. Moïse prie pour le peuple. Mais encore, quand on pense à Moïse et Aaron, Aaron notamment, et Moïse aussi, tous les deux ne sont pas parfaits. Je me dis, si Aaron se proposait à défendre le peuple, c'est un peu comme si vous étiez accusé de fraude et que c'est Cahuzac qui propose de prendre votre défense. Même si vous êtes innocent, même s'il parle bien, un tel avocat n'est pas très rassurant. Alors que penser d'Aaron comme avocat? Ou encore Moïse. Moïse, lui, va être incrédule et va être puni. Il ne pourra pas entrer dans un pays promis comme les autres. Alors, il y a une limite dans ce que lui peut faire, Moïse, en tant qu'avocat. Mais la bonne nouvelle pour nous tous, c'est que nous avons, nous, un avocat bien meilleur. Nous avons un intercesseur. Et au fond, c'est le plus grand besoin de notre vie. Nous le savons, notre conscience le réclame. Nous savons que si le procureur lance son accusation contre nous d'incrédulité, d'infidélité, nous savons que nous sommes coupables. Alors on pourrait essayer ces stratégies que Moïse n'a pas essayées, circonstances atténuantes, vices de forme, psychologie de l'enfance, mais devant le juge, ça ne passe pas. On a besoin de quelqu'un qui peut avoir gain de cause, alors que c'est cause perdue d'avance. Ou trouver quelqu'un qui peut avoir gain de cause alors que notre cause est perdue d'avance. Et bien c'est Jésus qui est venu, bien mieux que Moïse, et c'est ce qu'il a fait pour nous. Le Nouveau Testament présente Jésus comme justement notre avocat, celui qui intercède pour nous. Et si vous regardez bien, Jésus, plusieurs versets disent qu'il prie pour nous, il intercède pour nous. C'était le verset affiché sur le mur ce matin. Il peut nous sauver parfaitement parce qu'il vit toujours. Il prie pour nous, il intercède pour nous. Et ce qui est beau, c'est que Jésus, il suit le même raisonnement de Moïse. Il n'est pas en train de dire, ces gens-là, ils sont quand même bien après tout. Ça vaut la peine de les sauver. C'est pas comme ça que ça marcherait pas. Quelque part, ça vaut pas la peine de sauver des gens comme nous. Mais Jésus suit le même raisonnement que Moïse. Il dit, il en va de ton honneur, il en va de notre honneur, notre gloire. C'est l'occasion de montrer la grandeur de notre grâce. C'est l'occasion de montrer la grandeur de notre puissance. En sauvant les gens comme ça, nous avons l'occasion de montrer la grandeur de la miséricorde et de la grâce. Et puis Jésus, il peut dire aussi, ces gens-là, je suis mort pour eux. Alors, malgré leurs lacunes, malgré leurs incrédulités, malgré cette marche chrétienne qu'ils n'arrivent pas à toujours faire, je suis mort pour eux. Alors, si on laisse tomber là, les gens vont dire qu'on n'a pas eu la puissance de le faire, on était incapable de les sauver, mais au contraire, Dieu est capable de sauver. Et c'est ça, là, notre salut est imbattable parce que c'est basé sur cette réflexion-là. Ce que Paul dit en Romains 8, qui peut accuser les élus de Dieu? Parce que Christ est mort pour eux, et bien plus, il est à la droite de Dieu, c'est-à-dire en position d'avocat, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors, cette défense, elle est imbattable. Et Jésus, Moïse, on lui a proposé un royaume, Moïse... il a refusé, il a renoncé, mais Jésus, il avait un royaume, il a renoncé. Il a renoncé pour nous avoir, pour faire notre défense. Et lui, On lui a fait un procès de le limoger et de lapider. Et il en est mort. Et Jésus s'est mis sur le banc des accusés et il a été condamné à notre place. Mais là, il peut intercéder pour nous, il prie pour nous. Je termine avec une histoire qu'un pasteur collègue nous a racontée récemment, notre ami Thomas, à l'église Limoin. C'est une histoire que raconte John Stott dans un livre. Et l'histoire s'appelle « Le long silence ». Et une scène imaginaire, il imagine un peu une scène à la fin du monde. C'est la fin du monde et la foule immense de l'humanité se trouve devant le trône de Dieu et c'est l'heure du jugement. Et puis toute l'humanité, en fait, ça se discute en petits groupes et dans la plupart des cas, ça murmure, ça parle sur un ton plutôt critique de ce Dieu, ce juge. Et les discussions, c'est un peu, mais ce Dieu-là qui va nous juger, qu'est-ce qu'il en sait, lui? Qu'est-ce qu'il en sait? Comment ce Dieu peut nous juger? Par exemple, dans un groupe, il y a une juive qui a connu les camps de concentration, qui a connu la torture, qui a connu la mort. Il dit, oh. Et puis dans un autre groupe, il y a un noir qui a connu le racisme, le lynchage, tous ces crimes horribles. Puis un autre groupe, il y a un enfant handicapé qui dit « Mais à moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça ?» Et puis la pensée commune dans tous ces groupes, c'est quand même « Dieu, il a la chance d'habiter là-haut, la vie peinard, alors que nous, le désert, les géants, les problèmes, tout ça, et maintenant c'est lui qui va nous juger. Oh. » Alors ils ont eu une idée astucieuse, ces groupes, cette foule. Ils envoient un représentant de chaque groupe, celui qui avait le plus souffert, celui qui portait plainte le mieux. Donc il y a un juif, il y a un ancien esclave, il y a un enfant handicapé, défiguré, des personnes comme ça. Ils viennent ensemble, ils discutent, ils présentent, ils ont une idée qu'ils présentent au juge. Voilà ce que nous réclamons. Avant de pouvoir être jugé par vous, celui qui nous juge, eh bien, il doit vivre ce que nous avons vécu. Alors, la juive dit, il doit être juif. Et puis l'autre dit, il doit être esclave. Et l'autre dit, il doit être défiguré, il doit être méprisé. Et puis d'autres personnes, mais il doit être vraiment trahi par ses amis. Et puis quelqu'un dit, oui, il doit être abandonné, lâché par tout le monde. Oui, il doit être victime des fausses accusations, d'injustice. Et puis enfin, oui, il doit mourir même, de manière publique, à ce que tout le monde le sait. Et pendant qu'il réclame ces choses, ces exigences, toute la foule, « Oui, c'est ça, oui, c'est ce qu'on veut, oui, c'est ce qu'on veut voir. » Et quand il donne la dernière exigence, il doit mourir, abandonné. À ce moment, personne ne dit plus un mot, il y a un long silence. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde vient de se rendre compte que ce Dieu-là, Jésus-Christ, c'est exactement ce qu'il vient de décrire. Et c'est ça la force du message de l'Évangile, et c'est ça le drame de l'incrédulité. C'est que bien des gens voudraient bien mettre Dieu au banc des accusés, pour sa manière de gérer l'univers, pour sa manière de nous conduire à travers le désert, devant les géants, devant les problèmes. On aimerait bien mettre Dieu au banc des accusés en disant il peut pas me reprocher, me juger. Moi, c'est moi qui le mets au banc des accusés. Et dès qu'on le dit, il faut se rendre compte que Dieu il s'est déjà mis là-bas pour enlever ce prétexte, pour s'associer à nous, pour vivre ce que nous avons vécu, pour nous en délivrer, pour nous sauver, pour prendre notre défense. Et si on ne veut pas de ça, si on ne veut pas de ce juge-là, qu'est-ce qui reste? Il y a une réflexion qui fait trembler dans le Nouveau Testament, et en s'adressant à nous, le peuple qui habite maintenant, et la réflexion, c'est de dire, regardez l'Ancien Testament, eux, ils sont morts pour leur incrédulité, la génération de Moïse. Mais eux, ils n'avaient pas la Bible, ils n'avaient pas la croix, et ils n'avaient pas la résurrection. Et ils n'avaient pas l'œuvre du Saint-Esprit de la même manière. Ils n'avaient pas la Bible, ils n'avaient pas la croix, ils n'avaient pas la résurrection. Et on voit ce que l'incrédulité donne. Et nous, nous avons la croix, nous avons la résurrection et nous avons la Bible. L'incrédulité, c'est un crime encore plus grave depuis cela. Alors, voilà, on ne va pas faire l'incrédulité ce matin. On va s'attacher à la gloire de Dieu et ne pas vouloir diffamer son caractère, mais accepter ce qu'il a fait pour nous, la défense qu'il nous a donnée en Jésus-Christ, pour ensuite marcher dans ses voies, être animé d'un autre esprit comme Caleb l'a été, en disant « Oui, je saisis les promesses de Dieu et je saisis son salut et son secours. Je sais, il a toujours fait jusqu'à présent. Maintenant, je vais avancer avec lui. »